Vous êtes à l'émission En profondeur, ici sur CKUT 90.3 FM. L'heure actuelle est 17h12. Le 16 septembre dernier, le militant politique Gabriel Nadeau-Dubois a pris la parole lors d'un lancement de livre de Naomi Klein à Montréal. Son discours porte sur le Parti libéral du Québec, qu'il signale d'avoir choisi l'austérité comme programme et la confrontation comme stratégie. Voici ce qu'il a dit.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup aux organisations qui sont derrière l'événement de ce soir de me permettre d'y prendre part à mon humble manière. Merci beaucoup à Anne Lagacé-Dawson aussi de m'avoir présenté si gentiment. On m'a demandé de venir vous parler ce soir et en fait d'introduire Naomi Klein, d'introduire son livre que j'ai eu la chance de lire dans les derniers jours. On m'a demandé aussi de faire une mise en contexte, d'expliquer à mon avis pourquoi ce livre-là était pertinent à lire aujourd'hui en tant que Québécois, que Québécoise, que Canadien, que Canadienne. Je suis très content d'être là et puis, comme je le disais, c'est un honneur, mais en même temps, la joie qui m'habite en ce moment d'être parmi vous est assombrie par le contexte politique dans lequel notre lancement d'aujourd'hui se déroule. Vous savez, aujourd'hui, la session parlementaire s'ouvrait à Québec, et cette session et l'année parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui, l'année politique qui s'ouvre aujourd'hui, est porteuse de sombres présages. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard a laissé tomber les masques durant l'été. Durant la campagne électorale, c'est un gouvernement, un parti qui s'était présenté devant nous comme un parti et comme un premier ministre modéré, comme un partisan du dialogue. Et enfin, ce gouvernement-là montre ces jours-ci son vrai visage. Le gouvernement libéral dirigé par Philippe Couillard a choisi l'austérité comme programme et la confrontation comme stratégie. Les employés municipaux sont en ce moment les premières cibles de cette attaque. Ridiculisés depuis longtemps dans l'espace public, ils étaient déjà une cible facile. Le projet de loi 3, donc, qui est le fer de lance de la charge libérale contre les devoirs sociaux de l'État québécois, entend les dépouiller de leur régime de retraite. Et la logique ici est exactement celle qui préside à l'ensemble des mesures d'austérité, c'est-à-dire, et ça d'ailleurs partout dans le monde, cette logique-là, on la connaît bien, c'est faire payer les travailleurs, les travailleuses honnêtes pour l'avidité irresponsable des maîtres. Ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'on nous dit que ce n'est que le début. On sait que la hache austère de Philippe Couillard n'a pas fini de faire des dommages. En éducation, on apprenait cette semaine que l'aide aux devoirs, voire l'aide alimentaire, sont en danger. En santé, les compressions sont sévères et les diminutions de services seront inévitables. Même le régime québécois d'assurance parentale est dans la mire des boutiquiers qui nous dirigent. Même l'universalité du système québécois des garderies, l'une des grandes avancées pour les femmes du Québec et un des systèmes d'équité sociale les plus efficaces au monde, est aujourd'hui remise en question. Pendant que tout cela se produit, exactement au même moment, en fait, le Québec est en voie de devenir la voie de sortie privilégiée pour le pétrole des sables bitumineux albertains. Malgré les inquiétudes de scientifiques et d'élus, le projet d'inversion d'Enbridge, de son pipeline neuf, va être une réalité à l'intérieur du prochain mois. Quand même Denis Coderre trouve que les choses vont trop vite, c'est que vraiment les choses vont très, très vite. Et ce dossier-là est vraiment un bon exemple. Pendant ce temps-là, le gigantesque projet de TransCanada va bon train. Le gouvernement du Québec prend bien soin de fermer les yeux sur les risques évidents de ce projet-là, prétextant, évidemment, son impuissance en la matière. On nous joue le même scénario aussi sur l'île d'Anticosti, où on a déjà donné le feu vert à des travaux d'exploration pétrolière qui pourraient mener à moyen terme à des activités de fracturation hydraulique sur ce joyau national du Québec. Aucun cri des écologistes, ni aucune plainte des scientifiques ne semble dorénavant assez forte pour vaincre le vacarme de l'or noir qui sonne et trébuche. Jusqu'où cette folie ira-t-elle? Mais surtout, comment en sommes-nous arrivés là? Parce que il y a exactement 6 ans aujourd'hui, exactement jour pour jour, 6 ans aujourd'hui, l'économie mondiale s'ébranlait. Il y a exactement six ans aujourd'hui, la méga banque d'investissement Lehman Brothers se désintégrait, provoquant une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Le lendemain, AIG, la plus grande compagnie d'assurance au monde, s'effondrait. Avant la fin du mois, la banque américaine Washington Mutual tombait elle aussi, provoquant ainsi la plus grande faillite bancaire de toute l'histoire des États-Unis. Dans les jours qui vont suivre, on le sait, la crise va se répandre un peu partout et les banques européennes, elles aussi, vont se mettre à tomber comme des mouches. Restrictions du crédit, chute des marchés financiers, contraction du marché mondial, faillite bancaire à répétition. Ça faisait 70 ans qu'on n'avait pas vu une crise économique d'une telle violence, mais ça faisait aussi 70 ans qu'on n'avait pas vu une crise de légitimité de ce système économique-là. Le poète Hölderlin allemand disait « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. » Cet hiver-là, il y a 6 ans, l'horizon politique nous semblait à plusieurs plus dégagé que jamais. Dans les journaux du monde entier, on remettait en question ouvertement les politiques économiques, les politiques sociales qui avaient présidé à l'élaboration des programmes politiques depuis plus de 30 ans en Occident. Même le très conservateur Financial Times publiait un dossier spécial qui questionnait l'avenir du capitalisme. Un banquier de Merrill Lynch avouait, je cite, « que notre monde est en miettes et que je ne sais honnêtement pas qu'est-ce qui va le réparer ». Dans les pages du Washington Post et du Wall Street Journal, on questionnait ouvertement la rationalité du marché, une idée qui est pourtant au cœur des théories néolibérales qui prônent la dérégulation des marchés financiers. Il y a 6 ans, presque jour pour jour, le système économique capitaliste était en crise de légitimité et l'hégémonie des idées néolibérales semblait bel et bien être ébranlée. 6 ans plus tard, ces remises en question ont cessé. En fait, c'est bien pire. Bien loin d'avoir été affaibli par la dernière crise financière, le néolibéralisme en est ressorti plus agressif que jamais. Loin de douter de leurs propositions, les partisans du tout au marché ont renoué avec leur arrogance de jadis et sur tous les fronts, ils sont repassés à l'attaque. Contre toute attente, une crise qui aurait pu, qui aurait dû signifier une crise de légitimité pour cette élite-là, lui a en fait fourni des munitions pour un nouvel assaut, une nouvelle offensive contre le bien commun. Et c'est cette offensive-là, celle de l'austérité, que nous sommes en train de vivre actuellement au Québec. S'il y a un avantage à être Canadien, il faut bien qu'il y en ait quand même quelques-uns, c'est que nous sommes ici aux premières loges pour assister à ce nouvel assaut. À Québec et Ottawa, le programme est essentiellement le même. On prétexte la nécessité de retourner à la croissance et de réduire les déficits publics. Et les gouvernements durcissent le ton en coupant sévèrement les dépenses publiques dans à peu près tous les secteurs possibles. Parallèlement, donc en même temps, de l'autre main, disons, on est en train de mettre la table pour des projets de développement économique rapides, simplistes. Il faut créer de la richesse, dit-on, et le plus rapidement possible. Dans un contexte de stagnation chronique de l'économie nord-américaine, en fait, de l'économie mondiale, les activités extractives apparaissent de plus en plus à notre élite politique et économique comme une solution miracle. Et le contexte, disons, mondial s'y prête bien parce qu'à l'autre bout, l'autre bout du monde, il y a toute une série d'économies qu'on appelle émergentes, comme la Chine, qui ont plus que jamais soif de ressources, qui ont plus que jamais besoin de ressources. Après 25 ans de tâtonnement, après 25 années pendant lesquelles on nous a raconté toutes sortes de belles histoires sur l'économie du savoir, sur la nouvelle économie, sur l'économie immatérielle, on est en train de se rendre compte que tout ça, en fait, est un mirage et que le projet politico-économique avec lequel l'élite politique du Québec et du Canada est en train de renouer, c'est avec un projet politique qu'on connaît bien, qui est celui de l'extractivisme, qui repose sur une vision du Québec et du Canada comme essentiellement des fournisseurs de matières premières. Et évidemment, au cœur de cette redéfinition-là de l'action politique des États québécois et canadiens, il y a une industrie en particulier, un secteur en particulier, qui est celui de l'industrie albertaine des sables bitumineux, qui est vraiment le fer de lance de cette redéfinition-là majeure. Et ce qui est encore plus angoissant, si une telle chose est possible, C'est que les politiques d'austérité qu'on met en place actuellement, qui précarisent les travailleurs et les travailleuses, contribuent largement à rendre ces développements extractifs encore plus attrayants pour les populations. Des régions entières sont en train de se dépeupler partout au Québec, partout au Canada, des régions qui se dégradent humainement et économiquement. Et dans ce contexte-là, les projets extractifs, les projets pétroliers, apparaissent de plus en plus comme la seule manière de sauver des communautés entières de la disparition. Le meilleur exemple de ce paradoxe-là, c'est sans doute le cas de l'île d'Anticosti, où on est en train de demander à la poignée d'habitants qui habitent encore sur cette terre de choisir entre la survie de leur communauté et l'arrivée de l'industrie pétrolière. C'est le choix qu'on est en train de leur demander de faire. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que les politiques d'austérité et les projets de développement destructeurs auxquels on fait face actuellement sont liés. Ce sont, je crois, deux côtés d'une même médaille. Ce n'est pas un hasard si elles nous arrivent en même temps. On est devant un système économique qui est prêt, plus que jamais, à repousser les limites de la planète elle-même pour se maintenir en place, quitte à saboter les conditions de sa propre existence à long terme. Ceux qui profitent le plus de ce système, d'ailleurs, n'ont pas avantage à ce que ça soit autrement. Le maintien des choses telles qu'elles, la dépossession de la nature et des peuples. Si nous ne faisons rien, nous serons bientôt tous des anticostiens. Si nous ne faisons rien, les travailleurs et les travailleuses seront tous et toutes confrontés à ce choix terrible, celui de perdre leurs emplois ou de contribuer à détruire l'avenir de leurs propres enfants. Dans le livre que nous lançons ce soir, Naomi Klein, je crois, nous invite à refuser de faire ce choix. C'est un livre que j'ai lu attentivement. J'appelle à la réflexion, j'y ai vu un appel à l'action, mais je dirais plus fondamentalement, j'y ai vu un appel envers le mouvement écologiste. Un appel afin que ce mouvement sorte de sa timidité politique, une timidité politique qui l'empêche depuis trop longtemps de prendre position sur les questions fondamentales que sont non seulement la manière dont on consomme, mais la manière dont on produit, la manière dont on organise nos économies. Je me suis mélangé dans mes papiers. J'essaie de retrouver où j'étais. Ah oui, j'en ai perdu une partie. Bon. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu un appel, oui, évidemment, au mouvement écologiste, mais j'ai vu aussi un appel au mouvement syndical. Le mouvement syndical est encore un morceau important, un morceau central de la gauche. Je ne crois pas que nous allons réussir à gagner cette bataille-là contre les changements climatiques sans le mouvement syndical, mais force est d'admettre qu'en ce moment, il ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Et dans le livre de Naomi Klein, j'ai aussi vu un appel au mouvement syndical pour les interpeller. Et je crois qu'on est en droit d'exiger d'eux à ce qu'ils fassent plus sur le plan environnemental et que la question des changements climatiques, la question de la crise écologique, devienne au cœur de la manière dont on comprend et on organise le syndicalisme au 21e siècle. Sinon, malheureusement, on va donner raison à la droite et le syndicalisme va devenir en effet impertinent. Vous savez, je vais à la radio plusieurs fois par semaine et puis... Une des choses qui me frappe beaucoup, c'est à quel point le néolibéralisme a réussi à s'imposer dans le discours public, à s'infiltrer dans l'ensemble des débats politiques avec vraiment une efficacité incroyable. Et je vous disais tout à l'heure qu'il était paradoxal que le néolibéralisme soit ressorti aussi fort et aussi triomphant d'une crise qui aurait dû l'ébranler. Une des raisons, d'après moi, pour laquelle le néolibéralisme a réussi ce tour de force, c'est qu'il y a eu un tel travail rhétorique, un tel travail de martèlement idéologique de fait par les néolibéraux au cours des dernières décennies, que la plupart des prémices de ce discours politique-là structurent actuellement l'ensemble de nos discours politiques. Et donc, je vous disais, quand je vais à la radio chaque semaine, je me rends compte qu'il m'est absolument impossible de parler de quoi que ce soit sans devoir constamment me justifier sur le plan du réalisme budgétaire, par exemple, d'une proposition. Je dois constamment être en train de m'expliquer pour dire en quoi ma proposition et réaliste dans le contexte économique et budgétaire actuel. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle le néolibéralisme a la force qu'il a, c'est qu'il a réussi dans les esprits à s'imposer comme une donnée incontournable de tous nos débats politiques. Je ne crois pas que Naomi Klein prétende, et je ne prétends pas non plus, que ce sont des livres qui vont changer les choses, qui vont changer à eux seuls les politiques publiques ou qui vont faire en sorte que les gens vont se mobiliser. Mais ce que les livres peuvent faire, par contre, et ce que le livre de Naomi Klein peut faire, c'est contribuer à faire de la question environnementale cet enjeu incontournable de notre époque, comme les néolibéraux ont exactement réussi à le faire dans les dernières années. Au 21e siècle, la question environnementale devrait être incontournable. On devrait devoir constamment justifier l'ensemble de nos propositions politiques en regard de la crise écologique. Et une incapacité à faire ça devrait signifier qu'il s'agit d'un projet qui n'est pas crédible. Malheureusement, pour toute une série de raisons, actuellement, nous n'en sommes pas là. Et si le livre de Naomi peut servir à quelque chose, je crois que ça pourrait être à contribuer à faire de la question écologique une question incontournable dans l'ensemble de nos débats publics, dans l'ensemble de nos débats politiques. Donc, ce livre, je crois, ne changera pas à lui seul les politiques de Stephen Harper, mais il peut certainement contribuer à cet effort rhétorique-là, parce que notre lutte, elle est, oui, dans la rue, elle est devant les tribunaux, elle est partout, mais elle est aussi dans les esprits. Et c'est à ce genre de contribution-là qu'on peut s'attendre d'un livre comme celui que l'on lance ce soir. Je vais m'arrêter ici, j'ai parlé trop longtemps. J'avais parié avec Anne Lagacé-Dawson que je réussirais à parler moins de 10 minutes, j'ai échoué. Je vais terminer en vous disant simplement, en vous souhaitant une belle conférence, en vous invitant à lire ce livre, et surtout, je vais également vous inviter à agir après l'avoir lu. Puis ma question finale à laquelle je voudrais répondre, ce serait en fait, pourquoi agir? Agir par espoir, je ne sais pas si c'est nécessaire, je ne sais pas si on a besoin de l'espoir actuellement pour agir. Est-ce qu'on devrait agir par courage? Je ne sais pas si on a vraiment besoin de courage. Moi, il y a un seul principe qui guide mon action politique, c'est celui sur lequel je voulais vous laisser ce soir. Ce principe qui, pour moi, doit guider notre action à partir de ce soir, c'est que si on a la chance, si infime soit-elle, d'avoir une influence, aussi minuscule soit-elle, sur la situation catastrophique dans laquelle nous nous sommes mis, je crois que nous devons nous saisir de cette chance. Peu importe ce que c'est, si nous pouvons faire quelque chose, je crois que nous avons le devoir et la responsabilité de le faire et que nous devons commencer à le faire maintenant. Merci beaucoup et bonne conférence.